Il suffit de se rappeler de Adam, bien sûr, qui au moment où il a désobéi, il va prendre conscience de sa nudité. Et l'homme sans Dieu a une vision temporelle à cause de son regard qui porte sur les valeurs de la terre. On sait qu'il y a eu des hommes prestigieux, Napoléon, prestigieux, un peu moins Hitler, mais c'est des visionnaires, ça a été des visionnaires. Et en même temps, quel gâchis, ces hommes. Et puis il y en a d'autres hommes, comme on pourrait voir, peut-être moins importants que ces deux-là, mais qui ont fait un gâchis de la vision qu'ils ont eue du monde. Et vous savez, et si vous ne savez pas, vous allez l'entendre, c'est que l'homme qui a trop de vision, sans Dieu, a besoin de révision. Oui, il a besoin de révision. Et vous savez, on peut être tous placés à ce niveau-là. C'est l'apôtre Paul qui, écrivant aux Corinthiens, va dire ceci: « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. » On va s'arrêter là. On a vu assez rapidement, bien sûr, les limitations de l'homme, naturel, irrégénéré. Mais alors, qu'en est-il du serviteur de Dieu ou de la servante de Dieu? Dans Hébreux, chapitre 11, il nous est fait état d'un peu de tous ces hommes qui, à chaque niveau de leur vie, ont eu un regard sur Dieu. Moïse, que je vais prendre comme modèle parce qu'il qui regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors d'Égypte. Car ils avaient les yeux fixés sur la rémunération, c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Le choix de Moïse a été d'un point de vue humain extraordinaire. N'oublions pas, Moïse avait tout. Il avait tout en Égypte. Et il a préféré tout laisser simplement pour suivre la voie de Dieu. On retrouve en lui la même démarche qu'on peut découvrir dans Abraham. C'est la vision qui permet d'espérer contre toute espérance, nous dit la lettre aux Romains. Et c'est vrai que, est-ce qu'on prend conscience, espérer contre toute espérance. Quand la désespérance est là, et qu'il n'a pas connu des moments de désespérance dans sa vie, espérer contre toute désespérance, c'est quelque chose qui n'est pas naturel. L'être humain que nous sommes ne peut pas, quand il est dans le désespoir complet, si Dieu n'est pas avec lui, il tombe dans un désespoir profond. Et Moïse, lui, les choses promises, il les a vues et il les a saluées de loin. Mais cela doit être pour chacun d'entre nous, aujourd'hui, un encouragement, mais aussi une recommandation. Et parce que s'ils les ont vues, cela nous montre aussi qu'il y a eu un changement d'attitude. Nous aussi, nous sommes appelés à détacher nos regards de la terre, de ce monde. Parce que on s'aperçoit que Moïse, malgré les menaces pesantes du roi de l'époque, n'a pas hésité. Pourquoi? Il y a des pourquoi, vous savez, qui sont sa réponse. Mais là, on peut dire que le pourquoi a une réponse. C'est que son regard, sa vision a été tourné vers celui qui dit « Ne crains pas, je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Ça, c'est quelque chose que le diable ne pourra jamais nous enlever. Quand Dieu dit « Je suis avec toi, va et je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » même si on peut tomber dans le désespoir, eh bien, on a cette espérance qui est comme une ancre profonde qui est en nous. On peut dire que pour Moïse, en tout cas, quand on connaît sa vie, la vision lui a donné de l'assurance, mais aussi de la ténacité. On a besoin de ténacité, on a besoin d'être ferme dans la foi. Quand Jésus va sur la montagne de la Transfiguration, on connaît ce passage aussi, il prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, et ces trois hommes, ces trois disciples, ont vu la gloire de Dieu. Et ils ont entendu, ils n'ont pas seulement vu, ils ont entendu la voix de Dieu. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. On peut dire que cette vision qu'ils ont eue sur cette montagne les a marqués d'une manière indélébile. Quelque chose de profond, quelque chose qui est ancré en eux et jusqu'à la fin de leur jour qu'ils ont eu sur la terre, c'est quelque chose qui les a suivis. C'est Pierre qui va en reparler beaucoup plus tard dans une de ses lettres, dans la 2 Pierre 1, verset 16-18. C'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. C'est quelque chose de formidable. Quand on sait que Dieu, on ne peut pas le voir, l'homme ne peut pas voir Dieu et vivre. On sait. L'homme ne peut pas voir directement Dieu et vivre. Et eux, ils disent, et Pierre dit, c'est comme ayant vu sa majesté. Parce qu'il y a eu, je pense, c'est difficile à décrire ça, il y a eu quelque chose de tellement merveilleux qu'ils ont même du mal à le décrire, ce qu'ils ont vu. En même temps, ça les a marqués profondément. Ça leur a montré que ce Dieu puissant, vivant, c'est quelqu'un qui se révélait. Je vous propose qu'on puisse voir quelques aspects que la vision peut produire dans notre vie. Nous avons besoin, nous, aujourd'hui, 21e siècle, d'avoir ces quelques visions. La première qu'on peut dire, et on revient bien sûr à Moïse, c'est une vision glorieuse. Alors qu'il faisait paître les troupeaux de son beau-père, Jéthro, derrière le désert, tout d'un seul coup il vit cette merveilleuse vision, un buisson ardent qui brûle sans se consumer. Vous allez me dire, ben oui, dans le désert, et surtout à cette époque, et peut-être encore aujourd'hui, c'est quelque chose de courant qu'un buisson s'enflamme. Mais s'enflamme, oui, mais qui se consume et qui ne brûle toujours, ça non. Et Moïse ne s'est pas trompé. Il a compris que là, il y avait quelque chose de Dieu et il s'approche. Il s'approche parce qu'il est intrigué. Et là, l'Éternel se mit à lui parler du milieu du buisson. C'est étonnant, non? Vous ne trouvez pas ça étonnant? Au milieu d'un buisson, dans un désert, Dieu se met à parler à Moïse. Comme quoi Dieu peut parler n'importe où. Remarquez, Dieu a parlé à travers la bouche d'une ânesse. C'est pour montrer qu'il peut parler n'importe où et n'importe comment. La question, est-ce que nous sommes attentifs à sa voix? C'est là le problème souvent qui nous concerne, nous les hommes, les femmes. Est-ce que nous savons tendre l'oreille, peut-être pas celle-là, mais l'oreille du cœur, quand Dieu parle. Est-ce que, quand il a parlé, est-ce que j'ai compris son message? Est-ce que j'ai compris la portée de ce qu'il m'a dit? Et dans la flamme, Moïse contemple vraiment la gloire de ce roi immortel, invisible, qui dit « Je suis descendu pour délivrer le peuple du joug de l'esclavage. » Parole merveilleuse. Mais si on n'en restait que là, on passerait peut-être à côté de l'essentiel. Des siècles plus tard, Dieu est descendu encore. Dieu est descendu dans la personne de Christ pour nous délivrer de l'esclavage du péché et de la mort éternelle. Et Dieu, quand il dit quelque chose, il l'accomplit. Un autre aspect de la vision, c'est une vision qui transforme. Oui, Dieu nous transforme. Si vous êtes dans l'état d'être humain que vous êtes normalement, s'il n'y a pas une transformation de Dieu derrière, il y a un problème. Dieu transforme. On ne perçoit plus les choses comme vous les perceviez jusqu'à avant. Comme moi, personnellement, c'est quelque chose qui m'a tellement bouleversé quand Dieu s'est révélé à mon cœur que j'ai dit, mais je vois des choses maintenant que je ne voyais pas avant. En tout cas, Moïse, quand il s'est détourné pour voir cette vision, sa vie a été radicalement transformée. De berger qu'il était, jusqu'à présent, pour le troupeau de son beau-père, il devient le conducteur, le libérateur d'un peuple opprimé par la servitude de l'Égypte. Vous voyez que ça change. Entre un berger d'un troupeau et un conducteur qui va être le libérateur. Il est impossible de regarder Dieu en Christ sans être totalement transformé. Rappelez-vous Saul de Tarse, celui qui sera appelé plus tard Paul. Il est dit qu'il menissait, il respirait la menace et le meurtre contre les disciples de cette nouvelle religion. Mais le Seigneur, il nous a dit que dans le livre des Actes, que sur le chemin de Damas, Saul de Tarse va voir une lumière venant du ciel qui resplendit autour de lui et il tomba à terre. J'aime moi cette parole, il tomba à terre. C'est révélateur qu'on ne peut pas rencontrer Dieu sans plier le genou, sans tomber à terre, sans être mis plus bas que terre, dans le sens pour montrer qu'on n'est rien. On n'est rien, on n'est absolument rien si Dieu n'est pas avec nous. Mais pour qu'il soit avec nous, il faut passer par ce stade-là, on appellera ça la repentance, mais c'est comme ça, il n'y a pas d'autre chemin, c'est le seul chemin que Dieu nous donne pour qu'il soit avec nous. Et là, dans cette rencontre, il y a une voix qui se fait entendre, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? » On peut dire qu'à partir de ce jour-là, relisez ce chapitre dans le livre des Actes, il est très important. Ce jour-là, on peut dire que sa vie va prendre une autre tournure. Et aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Allez, compte un peu. Il est resté 3 jours aveugle. Et dès qu'il a été remis dans un état physique normal, en ayant une vue, il se met à prêcher. Souvent, je ne dis pas pour tout le monde, même pour certains peut-être, c'est difficile de témoigner, difficile de dire que Jésus est mon Seigneur, difficile de dire que Jésus sauve, difficile de dire que Jésus veut transformer notre vie. Ça paraît difficile. Et souvent, quand on se retrouve en famille, j'ai connu, ça c'est pas écrit, mais j'ai connu un frère en Christ qui était d'origine juive et quand il s'est converti, à sa famille, il n'a jamais dit qu'il était chrétien. Ça a duré des années et des années avant que, quand même, il décide un jour de dire à sa famille juive, voilà, Jésus est mon Seigneur. Le qu'en dira-t-on, la timidité. Ça, c'est une timidité maladive. Je sais de quoi je parle, j'ai été très comme ça. Timide. Un autre aspect, c'est une vision qui nous met à part. Moïse a quitté l'Égypte par la foi. Lorsque le Seigneur se révèle à nous, nous ne voyons plus les choses comme avant. C'est le prophète Ésaïe qui va dire ceci. En voyant le Seigneur sur son trône très élevé, il nous a dit qu'il fut saisi d'une crainte. Et là, il a pris conscience de son état. Prendre conscience de ce qu'on est. Malheur à moi, il va dire, je suis perdu. Car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Et là, il nous a dit qu'un ange vient à lui avec une pince et un charbon ardent. Il lui touche les lèvres et il dit, tes péchés est expié. Ton iniquité est enlevée. Il nous a dit que Isaïe, entendant la voix du Seigneur, dit, me voici, envoie-moi. Ça aussi, c'est important. Lorsque Dieu nous rencontre dans la personne de Jésus, il n'est pas possible de rester dans une attitude un peu comme s'il n'y a rien qui s'était passé. Non. Quand le Seigneur touche notre cœur, automatiquement, ça devrait amener une réponse sûre, nette. Seigneur, envoie-moi. Je ne sais pas comment vous, dans votre rencontre avec le Seigneur, quelle a été votre attitude. Moi, je sais que personnellement, le jour où dans ma chambre, j'ai crié à Dieu, j'ai un peu crié. Je ne connaissais pas la parole comme ça, je n'avais pas de connaissance. J'ai dit, Seigneur, je veux te servir. Sans savoir qu'est-ce que j'allais faire. Hein. Seigneur, je veux te servir. Il n'a pas été sourd à ce que j'ai dit. Hein. Il ne sera pas sourd si vous faites cette réponse. Il y a un autre aspect de la vision, c'est qu'elle nous fortifie. C'est Moïse, il l'a dit, hein, on l'a déjà dit, il n'a pas été effrayé de la colère du roi. Et c'est peut-être l'apôtre Paul qui va nous dire quelque chose d'important. Bien souvent, on connaît ce passage aussi, mais on n'y attache peut-être pas l'importance que toute la parole, on devrait attacher une importance. Mais vous, comme moi, il y a des passages comme ça qu'on sait, mais bon, on passe vite. Et Paul va dire ceci, je connais un homme en Christ. Et il ne dit pas que c'est lui. Je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans, ravi jusqu'au troisième ciel, soit dans son corps, ou hors de son corps, je ne sais pas. Il se trouva dans le paradis de Dieu et il entendit des paroles merveilleuses. Il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même. Non, sinon de mes infirmités. Pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ses visions et révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair. J'ai prié 3 fois. Là aussi, je fais un petit arrêt. J'ai prié 3 fois que le Seigneur m'enlève cette écharde. Comme quoi, vous voyez, on peut prier des fois et on n'a pas de réponse. On peut prier des semaines, on peut prier des mois, on peut prier même des années pour un sujet bien précis qu'on a bien et pas de réponse. Paul, c'est lui aussi, 3 fois il a prié, 3 fois, jusqu'au moment où le Seigneur lui a répondu quand même. Comme quoi, il faut être patient. Ma grâce te suffit. Et Paul va dire, et puis le Seigneur précise, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Alors Paul va dire, je me plais dans les faiblesses, je me plais dans les outrages, je me plais dans les détresses, je me plais dans les percussions pour Christ. Il se plaît dans les détresses, les persécutions, les outrages, les faiblesses. Car quand je suis faible, c'est là que je suis fort. Je ne sais pas vous si vous pouvez dire une telle chose. Moi, j'ai du mal. Personnellement, quand je suis faible, je suis vraiment l'homme qui revient en arrière. Un autre aspect de la vision, c'est qu'elle nous affermit. Parce que Moïse, lui aussi, il est dit qu'il tient ferme comme voyant celui qui est invisible. C'est quand même surprenant, ça. Hein? L'invisible. L'invisible qui vient dans le visible que nous sommes. C'est possible, ça? Oui. L'infiniment grand qui vient dans l'infiniment petit que nous sommes. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça, personne d'autre. Et si vous lisez dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 11, vous allez voir, tous ces héros de la foi doivent être pour nous un encouragement pour être fermes dans notre marche de tous les jours. En tant que croyants, en tant que chrétiens, nous ne devons pas être démunis. Au contraire, nos regards doivent se porter le seul endroit qui nous permettra d'être forts, c'est Jésus. Si vous portez votre regard ailleurs, vous êtes en danger. C'est une vision aussi qui nous enrichit. Regardant le propre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors d'Égypte, nous dit encore la lettre aux Hébreux. Et notre passage de l'Hébreu dit « Sortons donc pour aller à lui hors du camp en portant son opprobre. » Ésaïe précise quelque chose. J'aime beaucoup le livre d'Ésaïe. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de le lire, ce livre d'Ésaïe. Certains l'ont appelé le cinquième évangile. Et c'est vrai qu'on trouve des passages qui sont très très forts. Ésaïe 25, verset 8-9, Ésaïe précise, de la part du Seigneur, « Il engloutit la mort pour toujours, le Seigneur. L'Éternel essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple. Car l'Éternel a parlé... En ce jour, il en dira, voici, c'est notre Dieu en qui nous avons confiance et c'est lui qui nous sauve. C'est l'Éternel en qui nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. Vous voyez, ça, c'est une parole qui est donnée 700 ans avant la venue du Seigneur Jésus. Et là, il parle déjà de salut, de se réjouir, d'avoir confiance, d'être dans l'allégresse. Le salut de Dieu était en marche. Un septième aspect de cette vision, c'est une vision spirituelle. Il y aurait peut-être sûrement d'autres aspects, mais je voulais m'arrêter à celle-ci, septième. C'est par la foi que Moïse se montra ferme. Hébreux 11, 27. Tous ceux qui nous ont précédés, et le chapitre 11 des Hébreux nous en donne un grand nombre, ils ont comme dénominateur commun la foi, F-O-I. La foi qui, comme nous dit le premier verset de ce chapitre 11, est la ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je répète parce que c'est important. C'est la foi et la ferme assurance des choses qu'on espère, donc on n'a pas, et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est ça la foi. Un jour, j'ai été fortement étonné. J'étais tout jeune converti, donc je n'avais toujours pas de connaissance vraiment de la parole, de voir un chrétien qui était depuis des années chrétien me dire, moi, je suis comme Thomas. Je ne crois que ce que je vois. Mais en tant que jeune converti, ça m'a fortement étonné. Je me suis dit, mais est-ce que c'est possible, ça? C'est ça la foi? Ne croire que ce que je vois? Non? Si aujourd'hui je le revoyais, je reposerais la question pour voir s'il en est toujours au même stade. Parce que là, je dirais, mon garçon, tu as des progrès à faire. Parce que la foi, c'est une démonstration, justement, des choses qu'on ne voit pas. Mais c'est une espérance. Parce que Dieu a dit. Dieu a dit, je suis avec vous tous les jours. Est-ce que je crois que Dieu est avec nous? Est-ce que je crois que Dieu est là? Important. Si vous ne croyez pas que Dieu est là, au milieu de nous, ce matin, oh, c'est quatre murs, oui. C'est qu'un bâtiment. Mais tu es là, toi. Et si c'est ton Dieu, mais Dieu est là. Assis, peut-être à côté de toi. Et Dieu, ce qu'il veut, c'est ton bonheur, c'est ta joie, c'est que tu aies la vision, celle qu'il a tracée une fois pour toutes dans la parole de Dieu, qui va te montrer que le chemin qu'il a tracé est un chemin étroit, c'est vrai, peut-être même tortueux, parce qu'il est fait de difficultés, mais c'est pour que tu grandisses. Et en même temps, il te montre que tu as une place qui est réservée pour toi dans le ciel. Et c'est ça que Dieu veut, c'est que tu ailles au but. Et si j'avais une prière à faire maintenant, c'est celle-là. C'est que tous ce que nous sommes là, nous puissions tous nous retrouver un jour ensemble dans la présence de Dieu. En tout cas, Dieu, c'est C'est son message, c'est sa vision. Je vais peut-être rester là, parce que je crois que si nous avons compris que la vision de Dieu, c'est que nous marchions en nouveauté de vie, que nous puissions grandir en lui, avec ça. Si vous ne lisez pas la parole de Dieu, si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, alors vous allez être, comme Paul le dit, des enfants qui sont au petit lait. Et il faut manger une nourriture solide. Et la nourriture solide, elle est là. Et elle est pour tous. Seigneur, ce que je viens de dire de ta part, Seigneur, je le prends en particulier pour moi, déjà. J'ai besoin, Seigneur, que tu me parles. J'ai besoin que tu me demandes de marcher à nouveauté de vie. J'ai besoin, Seigneur, que tu me conduises dans les sentiers. J'ai besoin, Seigneur, que tu me parles sans cesse, afin que ta volonté, Seigneur, qui est bonne, puisse s'accomplir dans ma vie. Et je te prie en particulier aussi pour mes frères, mes sœurs qui sont là. Merci de les bénir abondamment, de les renouveler dans leur foi, de leur permettre aussi de marcher à eux aussi en nouveauté de vie, et qu'ensemble nous puissions être ce troupeau dont, Seigneur, tu es le grand berger. Merci, Seigneur, parce que c'est un effet de ta grâce, tout cela. Et tu es celui qui nous aime d'un amour éternel. Que ton nom soit béni et glorifié, Seigneur. Amen.
Bonjour. Je partage avec vous les annonces de la semaine et les annonces en général. Donc mardi, on aura donc l'étude, la réunion de prière, mardi. Voilà, on vous invite à y participer, c'est important. C'est important de se retrouver pour prier aussi. On vous invite à penser encore à ceux qui souffrent dans leur santé. Continuons de penser à John. Il en a bien besoin, prions pour lui, remettons-le aussi dans nos prières. Continuons de penser aussi à Annelise. Annelise est toujours à Beau Séjour. Elle souffre de nouveau beaucoup de sa jambe. Sa jambe la fait beaucoup souffrir parce qu'elle ne peut plus aller dans le caisson hyperbare, qui est un traitement spécifique et qu'elle a eu pendant un temps et qui l'a soulagé beaucoup au niveau de ses douleurs. Les médecins vont essayer un nouveau traitement au laser. Mais ça n'empêche pas que pour l'instant, c'est difficile parce que toutes les quelques minutes, voilà, paf, elle a un épisode de douleur. Donc, remettons-la à nos prières. Les visites lui font un bien extraordinaire. Et le mot extraordinaire n'est pas trop petit. C'est vrai que quand on la visite, on voit son visage qui se réjouit. Elle a besoin de partager, elle a besoin aussi de prier avec les frères et sœurs. Moi, je vous encourage vraiment à aller la voir. Il y a toujours sur le site de l'église un lien pour un doodle, pour pouvoir s'inscrire, pour voir aussi qui d'autre la visite, de façon à répartir aussi nos visites sur la semaine. C'est important. Et donc, voilà, visitons-la et remettons-la tout particulièrement dans nos prières. Dani l'a visité cette semaine. Elle disait que, voilà, avec ces douleurs qui sont là, Annelise soupire de partir vers son Seigneur. Donc, pensons à elle et vraiment prions pour elle et visitons-la. S'il n'y a pas d'autres nouvelles à partager, je vous invite à vous lever. Je vous lis encore deux versets dans le début de l'Épître aux Hébreux. Les versets 2 et 3 du premier chapitre. Dans ces jours qui sont les derniers, Dieu nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses, et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. Il soutient tout par sa parole puissante. Amen. Bon dimanche, bonne semaine.